notre équipe vous a préparé une émission variée avec des sujets passionnants. Nous allons tout d'abord retrouver Méline, qui nous présentera le canicross ainsi que d'autres sports en lien avec nos amis à quatre pattes. Clément, Lucie et Sarah se chargeront de vous faire découvrir la web radio, un sujet qui, nous l'espérons, vous passionnera. Alban, quant à elle, nous parlera du Printemps de Bourges, un événement musical incontournable. Emilia aura le plaisir d'interviewer Madame Rousseau pour nous en apprendre davantage sur le Festival à la rue, un événement à ne pas manquer. Et pour finir, Simon nous expliquera d'où viennent certaines expressions de la langue française dans notre nouvelle rubrique « D'où viennent les expressions ?». Je laisse tout de suite la parole à Méline.
Aujourd'hui, on vous parle d'un sport pas comme les autres, le canicross. Ce sport est né dans les années 80 et s'inspire des courses de traîneaux qu'on retrouve dans les pays froids comme le Canada, l'Alaska ou encore le Groenland. Mais ici, pas besoin de neige. Le canicross, c'est simplement courir avec son chien, attaché à vous par une longe élastique. En plus de faire du sport, ça renforce le lien entre le maître et son animal. Et ce n'est pas tout. Grâce à la traction du chien, on peut aller plus vite et repousser ses limites. C'est d'ailleurs une méthode utilisée par certains coureurs pour améliorer leur vitesse. Le canicross, c'est avant tout un sport d'équipe où l'homme et l'animal doivent avancer ensemble, en harmonie. Et puis, courir avec son chien, c'est aussi se sentir moins seul pendant l'effort. Mais ce n'est pas le seul sport à pratiquer avec son chien. Il y en a d'autres tout aussi fun et physiques. Le cani-VTT. C'est comme du vélo, mais avec son chien qui aide à tirer. Sensation garantie. Surtout en pleine nature, le chien est relié au vélo par une longe. C'est un super moyen de s'amuser tout en se dépensant. La cani-trottinette. Même principe, mais cette fois-ci avec une trottinette. Le chien peut atteindre des vitesses impressionnantes jusqu'à 50 km/h. Ce sport est généralement conseillé à partir de 15 ans. Et le cani-triathlon. Ah oui, ça existe. Il combine trois activités, la natation ou le paddle, le VTT et la course à pied. Toujours avec son chien, un super moyen de passer un moment complice et sportif avec son compagnon à quatre pattes. En résumé, les sports avec les chiens sont souvent pratiqués en plein air et ils renforcent la relation entre l'humain et l'animal. Il existe même des compétitions, parfois au niveau national. Mais attention, ces activités demandent de l'équipement adapté et parfois l'avis de professionnels pour éviter les blessures, pour le maître comme pour le chien. Alors, prêt à enfiler vos baskets ? Avec votre chien.
Merci Méline pour toutes ces informations. C'est au tour de Clément, Lucie et Sarah. Ils vont nous en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la web radio.
La web radio est un club permettant à tout élève de la 6e à la 3e de faire des émissions diffusées sur le site du collège pour renseigner les élèves sur les actualités, mais aussi pour enrichir leur culture sur divers sujets, comme des événements temporaires ou des fêtes traditionnelles telles que Halloween, les JO, etc. Nous parlons aussi d'activités internes au collège comme l'AS. Nous avons des micros, des casques audio et une table de mixage. Grâce à l'aide de Madame Goumin, qui est aussi l'organisatrice de notre club, nous apprenons et nous amusons un peu grâce à la bonne ambiance qui règne dans le CDI. Nous travaillons pour vous informer sur le plus de choses possibles et sur un court laps de temps. J'espère que nous aurons de nouveaux membres l'année prochaine et que le club radio pourra continuer son activité au collège encore de longues années. Je remercie tous ceux qui nous écoutent ainsi que tous mes camarades de la web radio.
Bonjour Edgar et Azalaïs. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Que faites-vous à la web radio ?
À la web radio, on fait des émissions.
Et puis pour monter une émission, ça va être tout un travail de recherche, souvent qui va prendre un voire deux mois, selon les sujets, selon les séances qui sautent, vu que des fois, tout le monde ne peut pas être là. Et du coup, enregistrer les émissions, ça va être une partie mineure du travail de la web radio. Ça va plus être vraiment de la recherche, de la rédaction aussi, même si souvent, même Goumin retravaille nos sujets. Donc souvent, la rédaction de certaines personnes n'est pas tout à fait optimale.
Combien d'émissions avez-vous faites ?
Alors moi, c'est ma première année de web radio, donc pour l'instant, on en a fait que 4.
Moi, c'est ma deuxième année. L'année dernière, on en a fait 3. Et cette année, on en a fait 3, plus celle un peu spéciale sur le forum d'égalité hommes-femmes, organisé par les 3e 3, Madame Goumin, Madame Branger et Monsieur Pinot-Gaucher. qui on avait du coup bah, la web radio avait collaboré, on avait interviewé des professionnels et des élèves et c'était une émission un peu spéciale et je pense que j'en ai fait 6 ou 7 en tout.
Est-ce dur de préparer une émission?
Non, c'est pas très dur, c'est à la portée de tous, on va dire.
Je trouve que ça dépend du sujet, parce que selon les sujets, ça va être plus ou moins compliqué de faire les recherches. Après, je pense que c'est pas forcément dur, ça va plus être long et minutieux pour avoir bah, toutes les informations. Mais après, ça va dépendre du sujet et du nombre de personnes. Parce que les groupes peuvent aller de 1 à 2 ou 3. Ça va vraiment dépendre des sujets.
Vous sentez-vous un peu comme de vrais journalistes ?
Oui, un peu, on peut dire ça comme ça.
Moi, pas du tout. Parce que bah, on a vraiment le rôle de journaliste, vu qu'on va plus écrire des sujets qui peuvent intéresser plus des gens bah, du collège. Ça va pas vraiment être des infos, donc je ne vois pas comme, bah, comme des journalistes, vu que les journalistes apportent une part d'information. Nous, c'est plus bah, des sujets un peu plus... Bah, ça dépend des sujets, mais ça va plus être des sujets pour parler de centres d'intérêt, plus pour nous, les collégiens. Donc, je ne vois pas forcément comme des vrais journalistes.
Comment choisissez-vous vos sujets?
Alors, souvent, on va d'abord se concerter avec tout le groupe pour donner plusieurs idées de sujets, souvent avoir 5-6 idées. Et puis après, on va faire une sorte de vote pour savoir quel sujet on garde. Chacun va choisir un sujet. Et après, il ne faut pas faire des émissions trop longues, vu que souvent, ça dépend bah, des sujets choisis, mais souvent, il y a un assez gros sujet qui va prendre pas mal de temps, et souvent 2-3 autres petits sujets en plus.
Où peut-on trouver vos émissions?
Alors, on peut trouver nos émissions sur le site officiel du collège. Donc, il y a juste à marquer Littré Bourges, et puis on clique sur le site et on trouve.
Comment enregistrez-vous les émissions?
Alors, on a 5 micros. Souvent, on se met... Il y a souvent le présentateur qui reste tout le temps, et après, chaque personne qui fait les sujets... Bah, tourne et pour faire une rotation pour pouvoir que ce soit fluide. Madame Goumin et du coup elle tape de mixage pour les micros pour pouvoir enregistrer et après bah, toute la partie montage ça va être Madame Goumin qui en fait bah, va la faire, c'est la partie la plus fastidieuse parce que nous on n'est pas encore assez compétents pour pouvoir faire le montage et c'est quand même très long donc c'est Madame Goumin qui gentiment le fait à notre place.
Avez-vous des choses à dire pour inciter d'autres personnes à faire la web radio?
Faites-le. Franchement, c'est génial et on apprend plein de choses.
Je trouve que c'est très instructif parce que ça fait bah, une expérience, parce que tous les collèges n'ont pas cette opportunité. Au lycée, ça ne va pas être possible. Ou alors, à Alain Fournier, il y a... Il y a une semaine consacrée à la radio, il me semble. Mais c'est vraiment une opportunité. Je trouve que c'est instructif. Déjà, je trouve que ça entraîne à parler assez et assez doucement, à pouvoir contrôler sa voix, à ne pas parler trop fort, pour vraiment savoir parler dans un micro. Et puis, c'est sympa. C'est vraiment une expérience. On passe... du bon temps, je trouve que c'est vraiment sympa à faire.
Merci à vous deux.
De rien.
De rien.
Merci à vous trois et un grand merci à Edgar et à Zalaïs. Alban va maintenant nous parler du Printemps de Bourges, le fameux festival qui anime la ville au mois d'avril.
Comme chaque année, le Printemps de Bourges prend d'assaut la place Sérocourt et la place de la Cathédrale, transformant la ville en un véritable carrefour de la musique. Né en 1977, grâce à Daniel Colling, ce festival est devenu une véritable institution. Et cette année, une belle manière de lui rendre hommage. Le Palais d'Oron portera désormais son nom. Daniel Colling, qui nous a quittés en début d'année, a marqué l'histoire de ce festival. À l'origine, le Printemps de Bourges voulait offrir une scène aux jeunes talents et c'est ainsi qu'ont vu le jour les Inouïs, ces artistes aujourd'hui révélés au grand public. Et parmi eux, un certain Eddy de Préto, qui a lui-même remporté ce titre prestigieux. Dès 1978, le festival devient un incontournable, malgré quelques résistances dans la ville. Mais le soutien sans faille du maire et la détermination des organisateurs ont permis au festival de traverser les années. Et aujourd'hui, le Printemps de Bourges est bien plus qu'un simple festival. C'est une véritable fête musicale qui s'empare de la ville entière. Dans les rues, les bars, chaque coin de la ville devient une scène à ciel ouvert. En 2028, Bourges aura encore plus de raisons de vibrer, puisqu'elle a été élue capitale européenne de la culture. Le Printemps de Bourges, c'est une semaine de musique, de danse, de rencontres et d'émotions, où la ville s'anime, chante et danse sur tous les airs.
Merci Alban, nous espérons vous avoir donné envie d'aller vous promener sur le festival l'année prochaine. Tout de suite, Emilia reçoit Madame Rousseau pour nous présenter le festival à la rue.
Bonjour à toutes et à tous et merci Constance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Rousseau, directrice de l'association Le Carrois. Elle est avec nous pour parler de la 12e édition du festival à la rue, un événement qui anime chaque année la commune de Mentoux-Salon. Cette année, le festival se tiendra les vendredis 27, samedi 28 et dimanche 29 juin.
Bonjour, merci de m'accueillir ici.
Ah voilà. Pour commencer, pourquoi avoir choisi le nom du Carrois pour votre association ?
Alors le Carrois, c'est un mot de patois, berrichon, mais qui existe aussi dans plusieurs régions de France, qui désigne un carrefour. Donc c'était l'idée d'être... au carrefour des pratiques artistiques, mais aussi des lieux de vie des habitants, la diversité des projets.
D'où vous est venue l'idée de créer le festival à la rue ?
Eh bien, c'était un goût prononcé pour les arts qui se pratiquent en espace public et aussi l'idée que c'est le fait que ce soit dans la rue, donc dans l'espace public, c'est accessible à tous et à toutes. Et c'est une dimension très importante pour l'équipe du Carrois. Et il y a aussi cette idée que il y a un croisement de disciplines dans les arts de la rue, c'est-à-dire qu'il y a autant du cirque que de la musique, que du théâtre, des arts de la parole, enfin plein de choses.
Et pourquoi avoir choisi Mentoux-Salon en particulier pour le festival ?
Alors l'association est historiquement basée sur ce qui s'appelait les terres vives avant et maintenant les terres du Haut-Berry. Et du coup, on a travaillé sur plusieurs communes et les arts de la rue se sont ancrés à Mentoux-Salon, notamment parce qu'on y a eu un accueil particulièrement chaleureux et des possibilités de déployer l'événement dans plein de cours et rues.
Okay. Avez-vous lancé ce festival seul ou étiez-vous entouré d'un groupe de coéquipiers dès le départ ?
Ah non, c'est une histoire d'équipe dès le départ. Il y a une soixantaine de bénévoles sur le festival à la rue. Il n'y en a pas toujours eu autant, mais dès le départ, c'est une volonté croisée de plusieurs personnes.
Concrètement, comment se passe le festival pour les bénévoles ? Quel est leur rôle pendant l'événement ?
Alors, il y a plein de rôles différents. Déjà, chacun vient selon sa volonté, son temps disponible. Il n'y a pas d'engagement, en fait. Préalable en tant que tel, nous on adapte en fait les fonctions aux disponibilités et aux envies des gens. Et donc en gros, ça se répartit entre une équipe d'accueil pour orienter le public, le placer, l'accueillir, le renseigner, une équipe de restauration bar qui fait du service, une équipe technique qui s'occupe de divers points d'installation logistique. Et puis des fonctions annexes qui peuvent aller jusqu'à héberger des artistes, conduire des artistes à la gare, par exemple, ou des petits services que l'on peut rendre à l'association de manière très simple.
Est-ce que l'association doit louer ou payer un droit d'accès pour occuper les lieux du festival ?
Alors non, la mairie nous laisse un droit d'accès entièrement libre et gratuit sur ces espaces parce qu'elle considère que ça participe à l'animation de la commune et au bien-être des habitants.
Okay. Le matériel utilisé pendant le festival vous appartient-il ou devez-vous le louer ou l'emprunter ?
Les deux, on le loue et on l'emprunte. On a plusieurs partenaires techniques et logistiques qui nous prêtent du matériel de scène, mais également des barnums, du matériel pour le bar, enfin voilà, différentes choses qui nous sont effectivement prêtées par des associations et des entreprises.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, pouvez-vous expliquer ce qu'est le chapeau ?
Ah, alors le chapeau, c'est la façon dont on demande la participation du public. Dans beaucoup de festivals, le chapeau vise à rémunérer directement les artistes. Au Carrois, au Festival à la rue, l'idée, c'est que nous engageons en tant que structure culturelle à salarier les artistes et à absorber tous les frais liés à l'événement, c'est-à-dire les locations, l'hébergement, l'accueil, la restauration. Et en fait, ce chapeau est indispensable pour équilibrer notre budget. Donc c'est un réel appui, mais c'est pareil, l'idée de la participation libre et gratuite, c'est-à-dire que c'est chacun selon ses moyens. Donc ça permet d'être accessible au plus grand nombre.
Comment sélectionnez-vous les spectacles ou concerts que vous programmez chaque année ?
Difficile question. Alors déjà, c'est un grand travail de repérage, c'est-à-dire que mon équipe et moi-même, nous déplaçons dans différents événements dans toute la France, en région et dans toute la France, et on fait en sorte de construire un parcours qui permet aux spectateurs de passer par différentes émotions tout au long de la journée, ou des trois journées. Voilà, donc c'est une sélection qui prend en compte la diversité des pratiques. Il faut qu'il y ait du cirque, il faut qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait de la musique, pourquoi pas des choses un petit peu saugrenues. Et puis, il y a une partie de la programmation qui est aussi constituée de projets portés par des groupements d'amateurs, par exemple les élèves de l'école de musique ou les enfants des Petits Mardis qui font des ateliers toutes les semaines avec nous.
Est-ce que les retours du public sont globalement positifs ?
Il semblerait que les retours du public soient globalement positifs. Ils viennent de plus en plus nombreux, même quand il pleut.
La météo a-t-elle déjà causé des soucis pendant le festival ?
Évidemment, c'est le jeu des arts de la rue. Donc on a des possibilités d'adaptation pour mettre le public à l'abri, voire carrément organiser des représentations dans les salles communales. Mais c'est jamais très confortable pour l'équipe. Mais voilà, c'est le jeu. Si on veut essayer le plein air, il faut craindre la pluie.
Et enfin, avez-vous déjà envisagé d'annuler une édition du festival ?
Non. On a annulé celle de 2020 pour le Covid, évidemment. On n'avait pas tellement le choix. Et encore, on l'a reporté. Mais non, pour le moment, on n'a encore jamais envisagé d'annuler une édition.
Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup Emilia et un grand merci à Madame Rousseau pour sa disponibilité. Nous terminons cette dernière émission de l'année scolaire avec Simon qui va nous expliquer l'origine de certaines expressions françaises.
Bienvenue dans notre rubrique des expressions. Aujourd'hui, on commence avec « faire les yeux de merle en frit ». Vous savez, ce regard tout innocent, naïf, presque un peu trop. Mais attention, quand on parle de « avoir les yeux de merle en frit », là, c'est plutôt un regard stupéfait, les yeux ronds, comme si on venait de voir un fantôme. En effet, cette expression vient de l'ancienne expression « faire des yeux de carpe frite », utilisée au XIXe siècle pour désigner un regard amoureux. Mais au fil du temps, on a remplacé « carpe » par « merlan ». Pourquoi ? Parce que, une fois frit, le merlan a des yeux ronds, et ça, c'est devenu l'image de l'expression. Passons maintenant à une autre expression bien connue, être comme un poisson dans l'eau. Et oui, au XIIIe siècle, on disait déjà être sain comme un poisson en l'eau, pour dire qu'on se sentait parfaitement à l'aise. Aujourd'hui, on utilise pour décrire quelqu'un qui est dans son élément parfaitement, dans son milieu naturel. Une expression toujours d'actualité et qui est adoptée par tout le monde depuis le XVIIe siècle.
Merci Simon. Notre émission est à présent terminée. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous cette année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions.